Bonjour, dans quelques heures, ce sera un moment important du calendrier juif. C'est évidemment le jeûne du 17 Tammuz, le jeûne qui commencera à 3h01 et qui finira à 22h23. Ça, c'est pour les horaires. Avec nous, le rabbin Aaron Yashef, le rabbin de Amira. Bonjour, monsieur le rabbin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pour résumer, parce que c'est bien de rappeler souvent quels sont les événements qui font que nous devons jeûner ce 17 Tammuz. Il y en a, je crois, 5.
5 événements du 17 Tammuz, effectivement.
Alors, on peut parler du plus connu, c'est évidemment...
On peut citer les 5. Voilà. Alors, on dit que Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi ce jour-là. Le sacrifice tamid, c'est un sacrifice qu'on amenait
quotidiennement
deux fois en fin d'après-midi et le matin a été arrêté aussi un 17 Tammuz. La ville de Oshalaim, il y a eu une brèche, on dit une brèche, mais c'est aussi pour dans les deux Bétamikdash, il y a eu cette brèche là. Pas exactement la même date, un jour près, je crois. On dit que Apostomos a brûlé la Torah ce jour-là et qu'il a mis un tselem, une idole dans le Betamikdash, dans le Kodesh à Kodesh, dans le Echal, on dit. Ça, c'est pour le 17 Tammuz, Tisha B'Av, c'est connu. Il y a eu cette décision qu'on ne puisse pas rentrer en Eretz Israël. Les deux Bétamikdash ont été détruits aussi à peu près à ce moment-là. La ville de Bétar a été conquise aussi et la ville de Yerushalayim a été labourée, comme on dit. On n'y avait plus de traces de cette ville-là. Aussi le Tisha B'Av, le 9 Av. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour le dernier de comprendre pourquoi pile était... Labourer ce jour-là, c'est un peu plus. Faut regarder ça de plus près.
Ce qui est intéressant dans on va dire, la religion juive, c'est que quand on est joyeux, on mange beaucoup, et quand on est triste, on ne mange pas du tout. Question, pourquoi on jeûne? On n'aurait pas pu faire autre chose que jeûner obligatoirement?
Oui, tout à fait. En vérité, le jeûne, tout le monde fait remarquer ça, ce n'est pas vraiment une fin, si je puis dire, une fin en soi.
La fillette.
Voilà.
Ouais. Mais c'est ce que les gens retiennent le plus.
Ouais. Ben oui, c'est ce qu'il y a de plus dur. En réalité, le jeûne, c'est juste une manière de s'interrompre, de fonctionner normalement, de donner à son corps ce dont il a besoin. Donc il y a toujours une petite révolte. Dès qu'on vous dit on va jeûner, tout de suite on se dit ah, non, c'est pas vrai, c'est reparti, c'est dur, ça souffre, etc. Ça induit, disons, une réflexion. Et cette réflexion-là permet, en vérité, de réfléchir et de faire un travail qui n'est pas vraiment le fait uniquement de ne pas manger, mais plutôt un travail au niveau de soi, de la réflexion. C'est comme quelqu'un qui réfère un peu qui irait à la montagne sans rien manger pendant 2-3 jours pour réfléchir un peu à lui-même.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une période où il y a beaucoup de choses mauvaises. C'est la période qui appelle ces choses mauvaises ou le contraire?
Ah, est-ce que le fait que ça soit, disons, toujours...
Ouais, c'est le même jour, la même période. Voilà. C'est beaucoup de mauvaises choses qui sont déroulées.
Bah, ça veut dire... que ce soit pour nous, c'est le moment des vacances, c'est le moment où il fait beau, c'est le moment, etc. Oui, c'est sûrement pas par hasard que ça soit à ce moment-là que tombe qui est cette période-là. Nous, ça tombe toujours mal. Tout le monde dit, ah oui, on a gagné ces filles-là, ça va être Tisha B'Av, je crois le 27 juillet, je pense, 27-28. Ouais. Et donc, on se dit, ah, c'est super, on a tout le mois d'août tranquille, ou une partie du mois d'août, parce qu'au milieu, il y a le mois d'Eloul, etc. Ouais. Donc, effectivement, ça vient casser les vacances.
Ah, c'est pas le plus important, si?
Si, si, je pense que c'est important que justement, c'est un moment où on se dit, bon, on va être tranquille, on va on va penser à autre chose, etc. Et à ce moment-là, il y a cette période de deuil. Et c'est vrai que c'est comme un peu dans un mariage. On est, tout le monde est content, on a célébré le mariage, etc. On vient casser un verre, on vient rappeler que tout ça, c'est bien joli, mais il manque quand même l'essentiel.
Alors, ce jeune 17 amours, c'est un peu le départ d'une autre période, qui est la période de 3 semaines de deuil, avec, on va dire, 9 derniers jours avant Tisha B'Av ou avant Tchar B'Av, selon là où on se trouve. Pourquoi il y a cette graduation-là? C'est-à-dire que plus on arrive au deuil et plus on prend conscience, ou...
Alors vraiment, expliquer vraiment ça, c'est très très complexe dans la halakha. Ça a l'air comme ça un peu simple, mais disons, c'est hyper complexe.
Mais dans l'esprit.
Comment, pourquoi on a rajouté ça à ce moment-là? Est-ce que c'était vraiment par rapport à Tisha B'Av, etc. Moi, en gros... la question, c'est est-ce qu'on voit les choses comme une gradation ou comme une période en elle-même? C'est-à-dire, est-ce que d'abord il y a ça, ensuite il y a ça? On dit le mois de Havre, c'est sûr, c'est connu. À partir du moment où commence le mois de Havre, il y a un problème de Mazal, il y a un problème où là, par rapport au Zman, comme vous avez dit, c'est le temps lui-même, on a l'impression qu'il induit ça. On est même avant Tisha B'Av.
J'ai lu dernièrement dans un shiur que en général on ne faisait pas de transactions financières ou immobilières pendant cette période-là. Il y a des choses qu'on essaye de déplacer. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette idée d'avoir des choses plutôt mal pendant cette période. Il faut y penser.
C'est comme la période de Avelout. Dans la période de Avelout, on essaye de pas penser à autre chose. On essaye de pas se, comme on dit, pendant l'année, par exemple, pour ses parents, on essaye de pas avoir de simra, de rester en deuil, et donc de pas avoir de choses qui me distraient, ouais, exactement.
Mais c'est d'ailleurs c'est important ce que vous dites, puisque le soir de Tisha B'Av, on s'assoit par terre comme des Havel. Et pareil, je crois qu'on mange un œuf, comme les Havel aussi. C'est très proche, c'est vraiment quelqu'un de notre famille qui a disparu de Tisha B'Av.
Ouais, on a fait ressembler ça à la Avelout. Est-ce que c'est quelqu'un de notre famille?
C'est que pour les gens de notre famille qu'on fait ça. Sinon, on ne fait pas l'œuf et...
Ouais. Tout à fait, on s'assoit par terre. Ouais, tout à fait, c'est... je sais pas, c'est comme si on dit Kakosh Bokhu, c'est Avinu. Alors, c'est d'une certaine manière qu'on va avoir perdu... qu'on va avoir perdu son père.
Alors, j'ai justement une question à vous poser, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont des enfants, évidemment. Pour eux, vous l'avez dit, c'est les vacances. Qu'est-ce qu'on peut permettre et qu'est-ce qu'on peut ne pas permettre pendant cette période?
Alors, d'abord, c'est toujours bien d'aller voir, surtout qu'il y a beaucoup de différences entre Ashkenaz et Sfarad, c'est bien d'aller voir son rave. Et si on veut obtenir, des coulottes, si on veut obtenir des choses...
Non, il y a des choses, il y a des coulottes qu'on peut avoir, c'est-à-dire il y a des permissions qu'on peut avoir, mais est-ce que...
C'est ça, vous avez dit, pour les enfants,
oui,
on peut obtenir...
Oui, parce qu'ils ne vont pas rester toute la journée à la maison, parce que c'est Tisha B'Av.
Exactement. Donc, c'est des sujets où il y a des machloquettes. Quand il y a des machloquettes et que c'est souvent des rabananes, on est plus mekel. Mais toujours, dans ces choses-là, c'est mieux d'aller voir un dayan ou le rav de sa communauté, parce que pour savoir jusqu'où on peut aller, on peut pousser un peu les limites, mais jusqu'où on peut pousser les limites. Et à chaque fois, ça dépend un peu de la personne. On n'est pas dans la chod d'oraïta. Mais il y a des choses quand même qui sont incompressibles. Malgré tout.
Par exemple,
et en plus, le fait que ça soit des enfants. Donc voilà, il y a un sujet très sensible, mais qui est à l'appréciation de chacun. C'est pour ça que mieux vaut demander. C'est toujours ce problème de la sakana. C'est-à-dire que c'est des moments où on dit que c'est des périodes un peu sans mazal, des périodes où il y a plus de danger, etc. Mais ça, c'est toujours un peu...
mystique.
Non, mystique, je dirais pas, mais disons que c'est encadré par la halakha, mais c'est des cas particuliers, le cas des gens qui partent en vacances, des gens qui ont besoin de laver, des gens Enfin, il y a plein de détails.
Par exemple, moi, j'ai mes parents qui m'interdisaient d'aller à la piscine pendant cette période-là.
Voilà, exactement. Par exemple. C'est le bon exemple. Ouais, okay. C'est le bon exemple.
Les deux jeunes, que ce soit 17 Tammuz ou 9 Av, c'est deux jeunes des Rabanan. Ça veut dire que c'est moins important que d'autres jeunes ou il y a une importance à suivre ce que nous disent des Rabanan?
Oui, bien sûr, ça c'est fondamental. C'est même, à certains égards, plus important qu'un Doraïta. Ça dépend comment on le prend. Ouais,
ce serait plus important que Kippour, par exemple.
Non, c'est pas à ce niveau-là, mais il y a un Gaon de Vilna extrêmement célèbre qui dit que le dernier jour de Pessah, la Souka, le dernier jour de Pessah, qui est Midera Banane, est plus importante que les 7 jours, parce que quand on transgresse une mitzvah tassé, aller dans la Souka, manger dans la Souka, pendant les autres jours, ça s'appelle Bitul mitzvah tassé, on annule un commandement positif. Mais tandis que si on n'y va pas le dernier, le 8e jour de Pessah, ça c'est alors que c'est des Rabanan, on est mevatel ce que les Chachamim ont dit. Et ça, c'est toujours mita bide shamaim. Ça, c'est plus, c'est condamnable d'une manière beaucoup plus forte que juste annuler une mitzvah tassé. Transgresser, en général, transgresser ce que disent les Chachamim, c'est d'un certain point de vue beaucoup plus grave qu'un Doraïta. Mais que seulement d'un certain point de vue, pas dans l'absolu. Absolu, un Doraïta reste un Doraïta.
Mais les deux jeunes sont des Rabanan, là, on est d'accord.
Là, on est d'accord, oui.
D'accord. Alors, il y a quelque chose aussi très, très intéressant pendant cette période, c'est concernant les offices. Parce qu'on fait les offices de façon un peu différente, surtout à Tisha B'Av d'ailleurs. Il y a beaucoup de tachanoun, c'est-à-dire beaucoup de supplications. Est-ce que, je dirais, le jeûne ne suffit pas à expier les fautes, il faut aussi faire de longs tachanoun?
Alors, d'abord, c'est une bonne question sur expier les fautes. C'est pas Yom Kippour non plus. C'est pas Yom Kippour non plus.
Enfin, si un des deux temples a été détruit, c'est parce que il y avait la faute de ne pas être, sinatrinam, donc. La haine gratuite, donc c'est un peu une façon de faute. Et on sait que Moshe est monté pendant cette période-là avant de se faire pardonner. Non, c'est pas comme ça que vous le voyez?
Oui, ça veut dire, faut comprendre la différence entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Tisha B'Av, si vous voulez, c'est ce qui arrive quand c'est un point de non-retour. Ça veut dire, même si tu fais Tshuva, de toute manière, c'est trop tard. Il y a un moment où c'est trop tard.
Le 17 Tammuz. Tshuva ?
Ouais, c'est trop tard. Ça veut dire, même si tu fais Tshuva, c'est comme après la faute des Maraglim, ils ont dit on a fauté.
Mais on ne dit pas souvent qu'on peut faire Tshuva jusqu'à la dernière seconde de sa vie. C'est pas le même système ?
Si, si, on peut faire Tshuva jusqu'à la dernière seconde de sa vie. C'est une Tshuva qui est acceptée. Mais il y a un moment où on a été tellement loin que même si on fait Tshuva, c'est trop tard. C'est trop tard. Le dernier moment de sa vie, c'est pas trop tard. D'accord ? On peut toujours faire tchouva. Le dernier moment de sa vie, c'est jamais trop tard pour faire tchouva. Mais pourquoi ? Parce qu'après, je meurs et la mort est en soi une kapara. C'est-à-dire, la mort est l'équivalent d'une destruction. Donc, il y a des fois où on peut faire tchouva, mais c'est trop tard. De toute manière, maintenant, tu vas être détruit. Tu vas être détruit. Or, Tisha B'Av, c'est vraiment le moment de la destruction. C'est pas le moment où, même si tu as compris, tu es dans le processus de destruction. Et donc.
Dans le texte des Tachanounin et de ce qu'on lit pendant la fête, ce sera une fête quand le Mashiach reviendra, mais pendant Tisha B'Av, c'est quand même sacrément. D'abord, on va le dire, c'est très, très trash, on va dire, comme ils disent aujourd'hui les jeunes, et c'est beaucoup. On a fauté quand même.
Voilà, c'est déjà une fête. Pourquoi ? Parce que le fait qu'Akosh Baruch Hu nous détruise, c'est aussi une fête. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de prendre conscience, alors que c'est trop tard. Une fois que c'est trop tard, si on continuait comme ça, alors ce serait plus que trop tard, il n'y aurait vraiment plus rien, ce serait une destruction totale. On n'est jamais dans la destruction totale, on est toujours dans une destruction pour essayer de reconstruire quelque chose. Effectivement, les textes qu'on dit, c'est on décrit ce point de non-retour, on décrit...
C'est violent, hein.
Voilà, on décrit ce point de non-retour d'une extrême violence.
Mais pourquoi, d'ailleurs, cette violence-là, on n'aurait pas pu le dire plus gentiment ?
Non, parce qu'à un moment...
Pour réveiller les gens.
Il y a un moment, on voit très bien avec nous autres, peuple juif, il y a un moment, les gens sont trop bouchés. Ils sont trop bouchés, ça veut dire ils pensent qu'on est un peu dans cette période-là, où les gens sont complètement...
Déconnectés.
Ça veut dire, ils comprennent pas, ils ont la destruction devant eux, et ils voient pas. Ça continue, on continue, comme si de rien n'était, en pensant que les choses sont impossibles. Ça, il faut s'imaginer, pour donner une image, il faut s'imaginer au premier temple. Donc, d'abord, il faut savoir qu'Irmiyahou, il a déjà écrit le fameux texte de Echa, il l'a écrit, c'est pas, Echa n'est pas une description de ce qu'il voit. Echa est écrit bien avant la destruction du temple. Donc, puisque c'est une prophétie.
C'est un avertissement ?
Voilà, c'est une prophétie, etc. Pour vous donner l'état d'esprit des Bnei Israël à l'époque du premier temple, c'est comme si je vous disais aujourd'hui, comme si un Yirmiyahou venait aujourd'hui, il disait voilà, Tel Aviv, dans 6 mois, sera un champ labouré. Il n'y aura plus rien. Alors le gars, il est dans son appart... etc., ou dans une tour au 70e étage, etc. Il dit, attends, tu me dis que Tel Aviv va être labouré, il n'y aura plus rien, on ne saura plus que ça a été. Et la personne répond, il y aura plus, on ne saura même plus que cette ville a existé. Qui y croit ? Personne n'y croit. Le problème, c'est qu'on ne mesure pas que l'histoire juive, ce n'est pas une blague. Et donc, c'est quelque chose à haut risque. Et donc, quand on nous dit, la destruction pend au nez des Juifs, personne n'y croit. Personne n'y croit parce que d'une certaine manière, tout va bien. Et comme explique Rabbi Yoham, plus HaKadosh Baruch Hu est patient, plus les gens pensent que ça va bien. Donc on est dans une forme de contradiction. Et donc c'est inimaginable de penser, on est tellement sûr, on est tellement certain, on est tellement persuadé que ça rien ne peut arriver... que finalement, on fait... Et donc la destruction vient pour dire, mais attends, tu dois un peu réfléchir.
Monsieur le rabbin Eliashef, on en parlait un tout petit peu hors antenne. Je rappelle, le jeûne, début du jeûne, 3h01, c'est tôt. Et la fin du jeûne, ce sera à 22h23, c'est tard.
C'est vrai.
Comment on peut comprendre que... vous avez de l'air, mais est-ce que c'est pas encore une double peine ?
C'est vous qui m'avez répondu. Il faut aller en Eretz Israël.
Oui, mais c'est quand même compliqué. Il y a des gens qui pourront peut-être pas jeûner. Alors, ils font quoi ?
Ah, là aussi. Attendez, c'est pas non plus une torture, hein, ceux qui peuvent pas jeûner.
3h, 22h, ça fait quand même 21h. S'il fait chaud, ça risque d'être compliqué, non ?
Oui, mais faut
se préparer correctement.
Faut se préparer, faut prendre un bon doliprane avant, il faut se reposer, il faut regarder Shoah, ça dure 9 heures Shoah, au Lanzmann, donc en 9 heures, voilà.
D'ailleurs, on peut tout regarder, on peut regarder la télé ou pas, un reportage, moi je sais que en colonie de vacances, on avait l'habitude de diffuser un film... Sur le temple aux enfants, c'était très bien. Ça nous reposait un peu, nous les animateurs. On peut tout faire.
Voilà, mieux vaut. Les enfants, c'est un sujet pour lui-même.
Les enfants et les adultes, des fois, on s'embête. On fait quoi ? On a étudié pendant 3 heures le texte. Après, on a envie peut-être justement de faire passer le temps, comme on dit.
Voilà, non, mais on peut lire. Il y a eu suffisamment de destruction dans l'histoire juive pour lire des textes là-dessus. Flavius Joseph, c'est des textes plus anciens, on peut lire des textes sur regarder des choses même sur la Shoah.
On n'a pas le droit de tout étudier ? Ou on aura tout étudié, on peut ouvrir un livre de, je sais pas moi, des fêtes ou d'autres macérates que le deuil est...
Non, on dit... Le problème, c'est par exemple, on dit on peut étudier Iov. Alors, si vous mettez à étudier Iov, vous allez être...
Pire dans l'état que vous êtes.
Moi, même pas, parce que ça va être C'est techniquement compliqué, chaque passouk, c'est un pensum. Je ne sais pas si ça va faire l'effet voulu. Par contre, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est qu'on a le droit de faire, mais qui est un peu limite quand même, c'est les halakhot de Avelout. Mais les halakhot de Avelout, en tout cas, pour ce qui concerne Tisha B'Av, les halakhot de Avelout, ça ne se parle pas du 17 Tammuz, mais... Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier des choses comme ça.
C'est un peu compliqué. Hein, les halakhot,
oui, mais c'est... les halakhot, elles sont intéressantes. Le problème, c'est qu'elles sont un peu trop intéressantes et qu'il y a toujours le risque du pile-poule. En vérité, moi, perso, ce que je pense, c'est qu'il faudrait, pour bien être dans Tisha B'Av, il faudrait ne rien étudier du tout.
On fait quoi alors?
Faudrait...
On dort?
Non, il faudrait s'ennuyer. Faudrait... Ah. Parce que on a besoin de l'étude. L'étude, même l'étude des textes qui sont censés être attristants, en vérité, ils sont superbes. Et donc, le mieux, moi, je trouve, c'est de rien étudier du tout. Mais on voit qu'à notre époque, c'est plus du tout ça l'état d'esprit. À notre époque, peut-être qu'on n'a jamais autant étudié que le jour de Tisha B'Av. Mais ça, c'est une vraie question. Je pense que c'est peut-être un peu de Yéridat à Dorot, que finalement... mieux vaut étudier et même avoir de la simcha de l'étude de Tisha B'Av que de avoir que de regarder, peut-être les gens regarderaient des films ou enfin ils sauraient tellement pas quoi faire que en vérité il faut ça le deuil, c'est de rien faire, d'avoir aucune possibilité d'étudier et c'est ça qui est la pire souffrance d'une certaine manière.
Et une question pour terminer un peu plus en dehors du sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait un rabbin en vacances?
Oula, qu'est-ce que fait un rabbin en vacances? Il étudie normalement.
Ah, normalement.
Normalement, si c'est un rabbin. Mais voilà, il étudie et il essaye de prendre des forces et de se déconnecter aussi d'une certaine routine.
Mais c'est possible d'être en vacances quand on est rabbin, avec toutes les responsabilités qu'on a entre ça saoule, les questions qu'on se pose, les fêtes qui vont arriver.
Pour un rabbin, les questions, tout ce qui est lié à la Torah, pour lui, c'est comme les vacances.
Non, donc il y a tout le statut social du rabbin, on l'appelle pour... parce que la casserole a brûlé, il faut savoir si on peut l'utiliser, on va avoir un enfant, il faut savoir comment faire, il y a des fêtes qui arrivent, on n'est pas à Strasbourg, et on va poser des questions, il faut savoir comment on fait, non? Il y a plein de questions sociales.
Ouais, c'est vrai que, en plus, cette période-là, on a l'impression que c'est incroyable, mais...
Il y a toutes les catastrophes.
Toutes les problématiques possibles et imaginables arrivent, donc on peut passer toutes les vacances
au téléphone
à répondre à toutes sortes de choses plus incroyables les unes que les autres, effectivement.
Voilà, juste pour le dire, puisqu'on n'a pas dit encore qu'on accueillera, je crois d'ailleurs, un nouveau rabbin après les fêtes qui prendra la place du rabbin
Schwingern,
puisqu'il a le droit lui aussi à prendre sa retraite, même si on ne prend jamais de retraite quand on est rabbin.
Surtout lui.
Cette lieu, on va vendre un nouveau rabbin à l'Esplanade. On lui souhaite déjà la bienvenue et beaucoup de chance. Merci beaucoup, monsieur Rabbin Yachef. On rappelle que vous êtes le rabbin de Amira. Et on rappelle surtout jeudi le jeûne qui commencera donc à 3h01 et qui se finira à 22h23. Merci à Lucas pour la réalisation technique et à vous tous. Tam Kal, bon jeûne.